des médecins qui se prononcent pour un contrôle plus strict des armes à feu et notamment l'interdiction au Canada d'armes de poing et d'armes semi-automatiques.
Oui, c'est un mouvement des médecins et puis c'est pas banal parce que c'est des médecins qui sont justement des traumatologues, des gens qui gèrent et qui sont obligés d'intervenir quand il y a des blessures par balle. Donc, ils sont dans les salles d'urgence puis ils sont aussi dans toutes les conséquences. Alors, mais ils se joignent à un mouvement qui existait déjà aux États-Unis puis l'historique est intéressant parce que si les gens l'ont pas lu, c'est il est arrivé que les médecins américains, il y a eu un regroupement des médecins américains pour intervenir contre les pas contre les armes à feu, contre certains types d'armes à feu aux États-Unis et la National Rifle Association, l'association des armes américains, a envoyé un tweet qui disait grosso modo que les médecins restent donc dans leur domaine, dans leur voie. Et il y a eu à ce moment-là des attentats extrêmement dévastateur. Et un des traumatologues qui avait à gérer ces cas d'urgence, à extraire ses balles puis à sauver des vies, a répondu « Mais voici quelle est ma voix. » Puis il a envoyé des... Et là, il y a une série de photos de gens blessés, de sang, de salles d'urgence maculées par le sang qui ont été transmises. Ça fait que le mouvement a été... Moi, à mon sens, il est assez puissant puis c'est devenu viral. Alors, les médecins canadiens se rejoignent à cette tendance-là. Puis moi, je me dis, ben bravo, on peut juste applaudir parce que leur implication, elle est là carrément sur le terrain. Ils voient les conséquences d'un non-contrôle des armes à feu. Et ce qu'ils réclament, c'est essentiellement qu'on interdise les armes de poing et les fusils d'assaut. Franchement, je vois mal comment on peut s'opposer à cette idée-là.
Moi, j'ai été surpris en lisant l'article de la presse ce matin parce que, bon, on sait qu'aux États-Unis, il y a un problème immense, qui est un problème de santé publique, de blessures, de morts par arme à feu. Il n'y a pas un pays industrialisé qui a des taux de mortalité semblables. Et ça va de pair avec les lois qui sont extra-permissives. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au Canada, on est loin d'avoir le même type de problème, mais on n'est pas sans problème. Moi, je pensais, je vivais un peu dans un monde imaginaire où il n'y en a pas de problème d'armes à feu. Et Dr. Andrew Beckett, qui est chirurgien à l'Hôpital général de Montréal, lui disait, écoutez, une fois par semaine, je soigne des blessures par balle une fois par semaine. Donc là, whoop, ça frappe. Après ça, tu poursuis la lecture de l'article. Hausse depuis 2013 de 42% des blessures des crimes commis avec des armes à feu au Canada. Et là, tu te dis, OK, on a peut-être un problème qui est plus grand qu'on pense. À Montréal, on le voit pas, mais quand tu regardes ce qui se passe à Toronto, on commence sérieusement à se poser la question parce qu'il y a des fusillades de façon beaucoup plus régulière qu'avant. Est-ce que c'est parce que il y a des armes illégales qui viennent des États-Unis? Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser la question? Est-ce qu'on devrait avoir des lois plus restrictives encore ici au Canada? Peut-être. Et c'est ce que le projet de loi C-71 vise à aborder.
Mais en même temps, ça c'est vrai. Mais en même temps, ceux qui se procurent des armes de poing de façon légale et qui vont donc chercher les autorisations requises puis des fusils d'assaut comme ça, là.
Oui.
C'est rarement ceux qui sont dangereux. Là. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'être. Là, aux États-Unis, on a vu des cas où les armes ont été achetées légalement. Puis en Nouvelle-Zélande, ça a été pareil. Mais le marché noir va continuer d'exister. Là, si je regardais un documentaire en fin de semaine sur les gangs de raies à Los Angeles, là, ils n'achètent pas les armes de façon légale. Là.
Non, ils volent ou même non.
Moi, j'aimerais voir de la recherche. Et au Canada, on est chanceux, si on se compare aux États-Unis, on peut faire de la recherche sur le problème de santé publique que sont les armes à feu. Aux États-Unis, tu n'as pas de fonds fédéraux pour ça. Dans certains États, les lobbies ont gagné le droit d'interdire aux médecins de demander à des patients qui sont dépressifs, est-ce que vous avez une arme à la maison? Parce qu'il y a une corrélation directe entre des symptômes de dépression, des tendances suicidaires et l'accès à une arme à feu. Donc, les médecins vont demander ça. Et là, ils vont peut-être te demander d'agir. Tu sais, confie-le à un proche, va les mettre au chalet. Juste que l'arme soit au chalet, par exemple, ou pas chez toi, ça a été démontré, les taux de suicide baissent. Aux États-Unis, la recherche là-dessus ne peut plus se faire au niveau fédéral. Au Canada, on peut le faire. Et moi, ce que j'aimerais voir, tu parles des armes légales, la proportion de blessures, la hausse de fusillades, la hausse de crimes, est-ce que c'est le fait d'armes qui sont acquises légalement ou illégalement? Là-dessus, on est un peu dans le noir. En tout cas, j'ai rien vu là-dessus.
Mais il y a des choses sur lesquelles tu peux t'entendre. Tu sais, il n'y a pas personne, il n'y a pas un chasseur, puis moi, je veux pas de problème avec les gens qui vont à la chasse, mais un fusil d'assaut, ça servira jamais à faire. Puis là, même dans...
Non, mais quand je fais des tribunes là-dessus, là, c'est des amateurs de tir, puis c'est des gens qui vont dans
des
centres.
Les amateurs de tir, est-ce qu'ils utilisent des fusils d'assaut quand ils vont dans la salle de tir?
Ben, ils peuvent, ben oui.
Ils déchiquettent le
Ouais, mais ça fait partie du sport.
Ah, ouais.
Sport de tir.
En tout cas, peut-être. Là, moi, j'ai de la misère à ça. J'avoue que j'ai un peu de misère avec ça. L'autre aspect qui est réel, c'est la présence des armes. C'est-à-dire que même des armes de poing, les gens peuvent avoir des raisons très correctes parce qu'ils font partie d'un club de tir ou tout ça, mais on n'est jamais certain que c'est bien entreposé, que c'est bien sécurisé. Le fait que ça soit là présent, c'est sûr que c'est une incitation à l'utiliser dans les cas de violence ou dans des cas d'auto-violence. Fait que moi, je suis assez sévère par rapport à ça.
Mais je veux revenir sur un point de l'article qui est très intéressant, qui montre pas juste la force des lobbies, mais la force, la puissance de gens qui sont pas forcément des lobbies, mais qui partagent la même passion, la même lubie. Les gens qui pensent vraiment que la vitamine C a une efficacité dans le cas de patients qui ont le cancer, des gens qui sont anti-vaccins, etc., etc. Docteur Beckett, qui est cité dans l'article, là, a une collègue qui est ontarienne, je crois, le docteur Najma Hamed, et elle a fait une sortie en faveur du projet de loi C-71. Il y a 70 personnes qui ont déposé des plaintes à son ordre professionnel.
Ah non, mais oui, mais je l'avais vu dans le Globe and Mail, l'article, et ça racontait, entre autres, tu sais, t'as des sites web, le Rate Your Doctor.
Oui.
Là,
ah oui.
Puis là, ils se mettent en gang, puis ils décident que...
Ils vont polluer son score.
Exactement, ouais, ouais. Exactement. Ouais. Donc, t'attaques la réputation, ouais. T'attaques le professionnalisme d'un médecin qui s'oppose comme ça au contrôle des armes.
Ça s'est vu avec le pharmacien, il n'y a pas longtemps. Olivier Bernard, le pharmacien, qui débusque le vrai du faux dans ce qui circule et qui concerne la santé, les médicaments. Qu'est-ce qu'on a fait pour le faire taire? On l'a harcelé en ligne et on a fait des plaintes à ses employeurs pour essayer de faire perdre son travail. Ça, c'est un nouveau phénomène qui n'existait pas avant. Donc, dans ce contexte-là, ces médecins-là qui prennent la parole, là, les médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu, je trouve que c'est une contribution qui est honorable et extrêmement intéressante.
En terminant, j'ai un message pour Québec solidaire, c'est un courriel. C'est un auditeur que je ne vais pas identifier, là, il ne veut pas, mais je travaille à Ottawa pour Revenu Canada et nous avons au moins une collègue, une employée qui porte le voile intégral, le niqab, au travail.
Ça existe.
Oui, alors lui, il dit « ça ne me dérange pas, mais c'est pas vrai que c'est hypothétique ah. ». Alors, prendre avis d'eux.
Et ça va être du cas par cas.
C'est sûr. Merci, bonne journée, 8h55. Le Pont-Mercier.